Du samedi 3 juin au vendredi 9 juin 2017, à 10h et à 13h, retrouvez sur Couleur FM les candidats aux élections législatives de la 6e et de la 10e circonscription de l'Isère. Ces émissions sont animées par Thierry Borde.
Couleur FM spéciale, l'élection législative, nous voici au lendemain du premier tour. Les résultats sont tombés dans nos 6e et nos 10e circonscriptions de l'Isère, et avec de chaque côté les candidates En Marche qui ont remporté ce premier tour devant les candidats Front National ou soutenus par le Front National. Et c'est le cas dans la 6e circonscription où Sandra Motin, qui est venue nous rejoindre avec son suppléant André Borne, a remporté ce premier tour face à Monsieur Gérard Desamptes, qui, lui, par contre, n'a pas souhaité venir à l'invitation et répondre à l'invitation qu'on lui a faite à participer à ce débat. C'est pourquoi nous entendrons ce matin Sandra Motin, donc candidate pour La République En Marche, se représenter devant vous, auditeurs, électeurs, pour le deuxième tour de cette élection législative. Alors Sandra Motin, André Borne, bonjour.
Bonjour.
Merci à vous infiniment d'être venu nous voir. C'est Couleur FM, radio de proximité, et nos auditeurs méritent bien d'entendre ce que vous, peut-être, très certainement, future représentante à l'Assemblée nationale, propose dans le cadre de cette candidature avec le mouvement En Marche d'Emmanuel Macron. Alors d'abord, peut-être votre première réaction après ce premier tour victorieux.
Une grande fierté, d'abord, d'avoir réussi à porter le message et le projet d'Emmanuel Macron auprès de nos concitoyens. Une grande fierté également d'être devant le Front National. C'était une de nos grandes craintes après les deux tours de scrutin de l'élection présidentielle. Et nous avons réussi à démontrer que, oui, aujourd'hui, on a entendu le ras-le-bol des Français, on a entendu leur colère, mais que non, elle ne s'exprime pas dans le rejet des autres, elle ne s'exprime pas dans la xénophobie, mais bien dans la construction. Donc une très grande victoire de ce point de vue-là. Et puis aussi une victoire pour toutes les équipes d'En Marche, tous les gens qui nous ont portés, André et moi, pendant ces 4 semaines de campagne, qui ont tous sur le terrain transmis leur foi dans ce nouveau projet de société et qui ont réussi, par leur proximité, par leur naturel, à convaincre les gens de voter pour nous.
Alors c'est tout nouveau pour vous, on vous a entendu vous présenter la semaine dernière sur l'antenne. Vous n'êtes pas une politique historique, contrairement à André Borne qui a un petit peu plus d'expérience à vous, mais donc c'est une expérience toute nouvelle. Comment on vit ça?
C'est à la fois très, très stimulant parce que c'est une aventure humaine fantastique, mais c'est aussi très stressant. Parce que je peux vous assurer que depuis vendredi à dimanche soir, je me suis un petit peu tendue intérieurement, parce qu'il y a une grande responsabilité qui pèse sur les épaules de tous les candidats En Marche, et sur les miennes aussi. Et je sentais ce poids depuis le départ, mais là j'ai senti vraiment à quel point on n'avait pas le droit de se tromper, et j'étais un peu libérée de cette tension-là, mais encore plus consciente du poids de la responsabilité qui va peser sur mes épaules.
Comment vous la définissez, cette responsabilité ?
On n'a pas le droit de décevoir. On a suscité chez nos concitoyens un espoir énorme, un espoir de faire de la politique autrement, un espoir qui soit enfin entendu, cet espoir qui réside dans le fait qu'on s'est réattribué et on a repris en main la vie politique de notre pays. Et si on les déçoit, le désespoir sera à la hauteur de l'espoir que nous avons suscité. Et nous savons que les conséquences pourront en être terribles pour la vie politique de notre pays après.
Alors c'est justement à mettre en lien avec ce que vous disiez au début, c'est-à-dire que vous avez répondu d'une certaine manière au ras-le-bol des Français qui les portaient jusqu'à présent à voter plutôt pour le Front National. Et alors, comment vous analysez ce ras-le-bol et quelles réponses vont être données à cela ?
Ce ras-le-bol, il vient d'abord d'un véritable schisme qui existe aujourd'hui entre des élites politiques, qui sont devenues des élites, et la population. La première chose à faire, c'est reconstruire ce lien de confiance. remontrer à nos concitoyens que les élus qu'ils vont amener jusqu'à l'Assemblée nationale sont des gens comme eux, qui travaillent, qui ont des expériences, qui ont des doutes, des interrogations, et qui sont abordables et à qui ils peuvent parler et avec qui ils peuvent échanger, y compris sur les sujets les plus importants pour la France. Et ça, c'est vraiment important. La deuxième chose, c'est qu'il va falloir qu'on soit irréprochable, exemplaire, dans notre comportement, dans la morale. On le voit aujourd'hui avec des affaires qui nous touchent au niveau national, chez En Marche, qui nous interrogent aussi, mais qui finalement nous font dire que oui, cette exemplarité, il va falloir qu'on l'ait encore plus fort à En Marche qu'ailleurs. Et même si pour moi, ça paraît juste être naturel, parce que c'est aussi pour ça que je me suis engagée, c'est parce que j'ai envie d'amener cette exemplarité à l'Assemblée nationale, et ben je pense qu'il est important déjà de le mettre dans une loi, de le voter de manière très ferme et extrêmement forte. Donc plus on sera nombreux à l'Assemblée pour le voter, et plus le texte aura de force. Mais c'est aussi continuer finalement sur le terrain à être là, à être disponible et à montrer que oui, je serai exemplaire tout au long de ce mandat de 5 ans si on me fait confiance.
Ça veut dire que ce texte sur la moralisation, sur cette exemplarité, pourra aussi toucher les personnes qui sont en responsabilité du mouvement En Marche.
Bien sûr.
Et les empêcher d'exercer.
Et les empêcher d'exercer si jamais, effectivement, ils ne sont pas dans les règles, évidemment. C'est à nous que ça devra s'appliquer de la manière la plus stricte, en premier. Ça me paraît évident. Maintenant, très honnêtement, j'ai beaucoup réfléchi à toutes ces affaires qui sortent, que ce soit Ferrand, que ce soit du côté du MoDem. Et je me suis dit qu'on était quand même un peu injuste aujourd'hui, parce que il y a 10 ans, quand ils ont, on va dire, dépassé la ligne rouge que nous avons mis aujourd'hui, la ligne rouge, elle n'était pas là. Très honnêtement, il y a 10 ans, on se disait tous, ok, les politiques, ils y touchent un petit peu, ils mettent un petit peu les doigts dans le pot de confiture, mais bon, tant que c'est pas trop, on accepte, finalement, ils sont tellement sollicités. C'est ce qu'on se disait il y a 10 ans. Et nos responsables politiques réagissaient par rapport à ça. Certains en étant exemplaires quand même, et j'en ai un bon exemple à côté de moi avec André, mais d'autres se sont permis de mettre un peu les doigts dans le pot de confiture. Résultat, aujourd'hui, on les juge, mais avec un regard différent, avec une exigence totalement différente.
D'autant que la pratique des collaborateurs est largement partagée à peu près dans toutes les collectivités et institutions qui ont des élus.
La majeure partie de nos élus aujourd'hui sont des gens honnêtes.
Sur les 500 000 élus de toute la France, on sait bien qu'il y a 95% des élus qui travaillent, qui sont là pour leurs citoyens et qui gagnent pratiquement rien du tout et qui font ça, on va dire, bénévolement. Alors c'est vrai qu'on met en avant, je veux dire, des affaires qui, c'est vrai, font le buzz, hein, médiatiquement vendent bien, font bien des affaires. Et puis du coup, bien sûr, si elles touchent tout le monde, bah, du coup, on essaye de dire que tout le monde est un peu dans le même comportement. C'est vrai que c'est Emmanuel Macron, l'élection d'Emmanuel Macron fait lever en fait un espoir pour qu'on ait une autre vision ou un autre ressenti de la politique. Mais ça sera des hommes et des femmes. Et en plus, des hommes et des femmes dont beaucoup viendront de la société civile et qui ont eu peut-être leur histoire personnelle de la société civile, pas avec la politique. Donc c'est l'enjeu. Malheureusement, En Marche, c'est pas un label de qualité 100%. Il y aura aussi sûrement des défaillances. Voilà, mais par contre, il y a une loi qui va être faite, hein, qu'on va appeler la confiance en la démocratie, je crois, le titre de cette loi, et qui fera que, du coup, les Français auront un texte de référence pour pouvoir, justement, pointer toutes les choses qui ne fonctionneront pas, et on devra nous montrer encore plus d'exemples que par rapport aux autres. Donc,
Très bien. Alors, justement, refaire un petit peu de la politique autrement, et puis redonner confiance aux Français, c'est peut-être aussi agir vraiment partout, dans la proximité, au plus proche des intérêts aussi de chacun. Vous êtes, Madame Metin, chef d'entreprise. Vous connaissez bien les enjeux du développement économique, du développement local. À partir de ce territoire du Nord-Isère, de la 6e circonscription sur laquelle vous vous présentez, comment on peut appréhender la dynamisation d'un tel territoire?
Je pense que d'abord, il faut qu'on trouve une identité à ce territoire. On est coincé aujourd'hui entre Grenoble et Lyon, qui ont deux identités très fortes, et au milieu, nous n'en avons pas réellement trouvé pour l'instant. Nous sommes un territoire à la fois périurbain et rural, avec des forces vives, mais aussi avec une volonté de garder un cadre de vie, de garder nos territoires ruraux comme ils sont aujourd'hui, c'est-à-dire aussi agricoles, de dynamiser la ville, notamment celle de Bourgoin-Jallieu. Nous devons du coup réussir à faire en sorte de trouver une véritable identité à ce territoire de manière à le rendre attractif, à la fois dans les zones rurales, par exemple, pour développer, en plus de l'agriculture, du tourisme vert, parce que c'est également une voie de développement pour un territoire rural sans forcément y amener énormément de nouveaux habitants. Et puis, il faut qu'on arrive à dynamiser Bourgoin-Jallieu. Et je pense notamment à Jallieu et avec le quartier de Champfleury. On va avoir de réelles opportunités économiques grâce à un dispositif tel que les emplois francs, qui vont permettre à des jeunes des quartiers dites politiques de la ville de trouver des emplois qui permettront à des employeurs d'avoir des subventions pendant 3 ans. Donc c'est 15 000 euros sur 3 ans. Et ça, je gage que ça va rendre aussi un peu de dynamisme au territoire, puisque les entreprises auront intérêt à venir chercher ces jeunes-là, chercher ces habitants, et donc à s'installer aussi dans notre commune.
L'idée d'appliquer, qui est née récemment à droite, mais qu'on a déjà vu à gauche, un petit peu partout, d'essayer de mettre autant de finances dans les pays ruraux que dans les quartiers politiques de la ville. Ça vous parle ou c'est une fausse équation ?
C'est une fausse équation, d'après moi. Il y a des choses à faire des deux côtés. C'est pas la même chose. Pour moi, la politique de la ville nécessite effectivement beaucoup de besoins, que ce soit dans l'éducation, dans les aides à l'emploi, dans le logement. Et au niveau de la ruralité, on a surtout besoin que nos agriculteurs puissent vivre de leur travail. Donc l'effort, il ne doit pas être fait uniquement par la collectivité, il doit aussi être fait par toute la chaîne, du producteur jusqu'au distributeur et au consommateur. Et c'est bien pour ça d'ailleurs qu'à la rentrée, dans les gros dossiers qui nous attendent, il y a le Grenelle de l'alimentation qui va réunir tous les acteurs de manière à ce que tous, dans cette chaîne-là, puissent vivre décemment de leur travail. Je crois qu'on est dans deux politiques et dans deux problématiques complètement différentes. D'une part, il y a une aide à apporter à des gens qui sont aujourd'hui dans la difficulté. De l'autre côté, on a une aide à apporter à des gens qui devraient pouvoir vivre normalement de leur travail, mais qui, pour des raisons économiques et un peu historiques, hein, on sait que la loi LME a fait beaucoup de mal aussi aux agriculteurs. Et du coup, il faut qu'on arrive aussi à remettre en cause certains textes qui ont été appliqués, enfin votés et appliqués, mais dont on voit aujourd'hui qu'il y a des effets pervers. Et dont on sait qu'en agissant sur eux, on peut remettre les choses, je dirais, en ordre de marche bien meilleur, et qu'on va pouvoir permettre à toute une filière de mieux vivre, simplement, et de retrouver la dignité, en fait, d'exercer sa profession.
Vous parliez juste avant de tourisme vert. Alors, c'est pas dans la circonscription, pardon, mais c'est pas loin. Vous êtes plutôt pro-Center Park ou anti-Center Park ? Arbois-Bon ?
J'ai pas d'avis là-dessus.
On développe les campagnes en aménageant, quitte à les écologistes reprochent la destruction du paysage, ou le développement touristique vaut qu'on...
Très honnêtement, j'ai entendu déjà des avis. Je connais celui des écologistes qui craignent pour la nature. J'ai entendu aussi celui du maire et des habitants de cette commune qui, eux, craignent pour les destructions d'emplois et pour les difficultés qu'ils rencontrent aujourd'hui à ce niveau-là pour les habitants.
Jean-Pierre Barbier, notamment, ici, qui nous expliquait ça, notamment, oui.
Voilà, donc, c'est pas une équation facile à résoudre, là non plus. Je pense qu'il y a des acteurs sur le terrain qui connaissent bien mieux que moi le dossier, qui sont bien plus à même que moi de donner un avis éclairé. Je pense que je dirais une bêtise si je me prononçais pour un camp ou pour l'autre. Donc par contre, il y a une chose qui est importante, c'est que moi, je fais confiance à la fois aux élus locaux et aux associations pour à un moment réussir à avoir ce dialogue. Et à la fin de la fin, clairement, c'est l'élu local qui a la confiance de ses concitoyens de trancher, mais en ayant pris la peine de vraiment écouter tous les arguments de tout le monde. Donc je ne doute pas que c'est ce que les élus ont fait ou feront. Quant à notre 6e circonscription, il est évident que ce n'est pas à ce genre de projet que je pense, mais bien plutôt à du tourisme, on va dire, du tourisme à la ferme, de la chambre d'hôte, avec des projets ou des choses qui existent déjà, que je connais sur le territoire.
La Via Romana qui traverse une partie de la sixième.
Voilà, on a effectivement la chance d'avoir cette Via Romana qui amène aussi des gens, des cyclistes, des marcheurs. On a un capital énorme, on a une campagne magnifique, vraiment, des paysages fantastiques. On a des personnes aussi, des agriculteurs notamment, mais pas que, des habitants aussi, qui ont une réelle fibre écologique et qui veulent porter ce type de projet. J'en connais un pas plus loin que à Villemarieux, une chambre d'hôte avec une vraie qui défend vraiment une volonté de faire tout dans le respect de l'environnement et de la nature et qui transmet ça bien au-delà de ses hôtes, mais aussi dans tout le village. Donc voilà, des initiatives de ce type. Il y en a d'autres, il y en a plein sur le territoire, et il faut les mettre en lumière, il faut les mettre en valeur, il faut en encourager d'autres, parce que il y en a pas partout. On a un vrai déficit en termes d'hôtellerie sur la sixième, alors que on est juste à côté du Parker Expo et juste à côté de l'aéroport de Saint-Exupéry, donc il y a un vrai potentiel. Donc voilà, il faut qu'on pense à la fois global, rural et écologie.
Et alors le potentiel, il n'est pas que là. Nos territoires regorgent de jeunes, de talents, de d'acteurs qui ont envie de faire des choses. Est-ce que dans votre pensée, dans ce programme, il y a l'idée de libérer aussi toutes ces énergies?
Oui, complètement. À la fois par les textes que nous allons voter dans le cadre de la loi travail, qui vont être aussi faits pour pouvoir libérer l'esprit d'entreprise, notamment avec le droit universel au chômage, qui permettra à des gens de se lancer sans avoir peur de n'avoir plus rien s'ils se trompent. Mais il y a aussi, et ça c'est important, le numérique. Le fait d'amener vraiment la fibre, des outils numériques dans nos campagnes, de façon à ce que, justement, tous ces jeunes qui ont des envies de créer sur des plateformes numériques puissent avoir les connexions qui vont bien pour le faire. Et puis, si on les a pas tout de suite, pourquoi pas encourager des communes à se regrouper, à créer des lieux qui, eux, seront bien équipés, de manière à pouvoir accueillir aussi ces jeunes pour qu'ils soient toujours sur leur territoire, même s'ils sont pas chez eux, qui puissent animer aussi une vie sur les territoires en créant, pourquoi pas, des pépinières d'entreprises, des centres d'affaires ou des lieux, en tout cas, de coworking où on pourrait retrouver toutes ces énergies-là.
Le tissu local et son dynamisme, c'est, vous l'avez cité juste avant, c'est aussi des tas d'associations. Est-ce que la politique d'Emmanuel Macron va aller dans le soutien aux associations? Alors c'est une question qui se pose peut-être notamment à l'heure où on parle de la nouvelle réforme des rythmes scolaires qui va effectivement éradiquer de nombreuses activités associatives à travers les communes qui vont abandonner leur temps d'activité périscolaire. Donc est-ce qu'il y a l'idée aussi de soutenir à travers...
Le tissu associatif quand même est très important sur nos territoires et c'est vrai que souvent il est lié aux activités sportives. Il y a beaucoup d'associations qui brassent beaucoup de jeunes dans ces équipements-là et dans ces associations. Il y a aussi tout l'accompagnement qui était lié au rythme scolaire qui, malgré le fait que l'accompagnement qui était jusqu'à présent une indemnité qui était liée à ces enfants qui fréquentaient ces rythmes scolaires, même si probablement elle ne sera pas reconduite, il y aura quand même tout un travail qui a déjà été fait avec les parents, avec les enseignants, pour beaucoup vont vouloir en fait continuer éventuellement à faire ces rythmes scolaires. Ces rythmes scolaires, ils ont été faits quand même, je le rappelle, pour respecter quand même, je dirais, l'apprentissage des enfants, c'est-à-dire plutôt apprendre le matin et l'après-midi, faire des activités d'éveil et permettre dans ces activités, avec des associations qui viennent de l'extérieur, à permettre à tout le monde de découvrir l'art, la culture, le sport, pour créer une dynamique par rapport à ce tissu associatif qui, éventuellement, pourrait après avoir ces enfants-là en grandissant comme adhérents après, parce que du coup, un enfant a pris la passion pour telle ou telle activité qu'il a découvert dans le cadre scolaire. Au niveau associatif, quand même, c'est vrai qu'on l'oublie souvent, c'est quand même des employeurs. hein, qui sont souvent importants, où on essaye donc à ce que la partie administrative aussi soit plus facilitée, soit pas très moins compliquée qu'une entreprise classique, parce que l'association, elle vit avec ses adhérents, elle vit avec quelques subventions, et c'est important que du coup ça devienne pérenne. Globalement, on a dans tous les villages, on l'a vu, hein, il y a une richesse d'activités. En plus, c'est la période depuis, on va dire, mai. Il n'y a pas un jour, pas un week-end où il y a des manifestations dans nos 55 communes, la 16e circonscription, de partout, diverses et variées, et qui sont souvent
le territoire riche en associations, qui sont souvent tous les territoires français,
qui sont souvent gratuites en plus, donc du coup, qui permettent d'une animation très importante par rapport à une dynamique de territoire.
J'ajouterais juste que on a une vraie politique de soutien de la vie associative, et notamment qui va aller vers les écoles avec la mise en place des études dirigées, qu'on va confier justement à des associations agréées pour accompagner les enfants de la primaire au collège. Je pense que il y a déjà cette voie-là qui va s'ouvrir vraiment pour les associations, mais il y a autre chose, c'est que on l'a vu, la montée du Front National dans notre pays, c'est lié aussi au fait que les gens s'enferment chez eux, qu'on perd ce lien social. Et les associations, de quelques activités qu'il s'agisse, créent ce lien social. Donc on a besoin, et ça c'est une promesse d'Emmanuel Macron, et pour l'instant il les a toutes tenues. Il veut, et nous voulons vraiment, que les gens n'aient plus de raison de voter pour les extrêmes. Et pour ça, il faut qu'on recrée du lien social. Et recréer du lien social, exactement. Et ça passe, certes, par l'activité, mais ça passe aussi et beaucoup par les associations.
Bien, merci beaucoup. Est-ce que, dernière question, vous êtes sereine pour dimanche prochain ?
Tant que c'est pas sifflé, c'est pas gagné. Ça, c'est ma phrase. J'adore le foot. J'ai vu le match de l'équipe. Enfin, non, j'ai pas vu. On m'a raconté le match de l'équipe de France contre la Suède. Un but à la 93e minute.
Sur une
voilà.
Inspiration du gardien, c'est sûr.
Jamais, jamais, jamais lever le pied tant que c'est pas fini. Donc, nous allons continuer à travailler sérieusement, à y mettre toutes nos forces, à rencontrer les gens. À être ici aujourd'hui, pour moi, c'était important. C'est aussi une manière de rencontrer vos auditeurs. C'est important que les gens me connaissent aujourd'hui. C'est pas le cas. Donc, merci beaucoup de cette invitation.
C'est important pour nous que les auditeurs, qui sont aussi vos électeurs, ou pas, mais en tout cas qui sont aussi des électeurs, apprennent à connaître les pensées de ceux qui vont à Paris, justement, pour nous représenter, de ceux qui ont des pouvoirs ici et là dans les institutions, parce que ils sont leurs représentants, évidemment.
Des devoirs avant des pouvoirs.
Voilà. Et en tous les cas, si jamais on est élu dimanche prochain, on va mener une relation quotidienne. Et on ne reviendra pas dans 5 ans. Voilà, on sera là tout au long de ces 5 ans, quotidiennement, auprès des citoyens et de tous les associatifs et aussi des radios locales.
Vous me verrez souvent.
Avec grand plaisir, vous êtes la bienvenue. Et avec plaisir, surtout en plus, si vous êtes élu, on a coutume d'inviter justement nos représentants à la radio pour de temps à autre faire un petit point de voilà qu'est-ce qui se passe là-bas, comment on représente ici aussi. Voilà, merci beaucoup, merci à vous,
merci.
À très bientôt.
Merci beaucoup. Merci.